Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. L'idolâtrie fait-elle vraiment partie du passé? N'a-t-elle existé que parmi les peuples de l'Ancien Testament? Êtes-vous certain qu'elle n'existe plus aujourd'hui dans ce monde moderne? En êtes-vous bien certain? Après l'installation du peuple d'Israël dans la terre promise, alors que Josué voyait arriver sa mort, il s'adressa au peuple en ces termes. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le peuple promit de rester fidèle à Dieu, cependant, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. À son tour, le prophète Élie interpella le peuple ainsi. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Pourquoi Josué et Élie se virent-ils obligés de mettre le peuple devant un choix? Parce que, n'ayant pas de reconnaissance profonde envers Dieu, ils ne l'appréciaient plus. Leur Dieu était devenu trop familier, et ils prirent ses instructions à la légère. Beaucoup de gens pensent être chrétiens, c'est ce qu'ils affirment, mais eux aussi prennent les enseignements de Dieu à la légère. Croyez-vous que Dieu puisse les considérer comme chrétiens? Et vous, comment vous considère-t-il? Êtes-vous un véritable disciple du Christ à ses yeux? Nous vivons entre deux puissances. Nous avons le choix entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre Dieu et Satan, entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, entre ce qui mène à la vie et ce qui mène à la mort. Trop souvent, l'homme pense que Dieu comprendra. C'est vrai, Dieu comprendra, et il a déjà compris que l'homme préfère choisir ce qui lui plaît, ce qui lui apporte du plaisir à brève échéance, mais qui, en fin de compte, n'apporte que malheur. Il y a quantité de religions dans le monde chrétien. Sont-elles toutes bonnes aux yeux de Dieu? Pouvez-vous choisir vos croyances comme s'ils étaient dans un vaste supermarché où vous avez l'embarras du choix? Tous les choix mènent-ils à Dieu? Votre choix mène-t-il à Dieu? Ou adorez-vous un faux Dieu? Clochez-vous des deux côtés? Le Christ a déclaré à son Père, « Ta parole est la vérité. » L'apôtre Paul a écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Si vos croyances sont contraires aux Écritures, si vous suivez la tradition des hommes, vous écartez le Christ de votre vie. C'est aussi simple que cela, et il est donc grand temps que vous le recherchiez. Beaucoup de personnes ont été baptisées lorsqu'elles étaient encore un tout petit enfant. Ce baptême peut-il avoir une valeur quelconque? Le mot « baptême » est traduit du grec « baptismos » ou « baptizo » qui signifie nullement « arroser » ou « asperger ». Le mot « original grec signifie « immersion ». La Bible raconte au sujet de Jean-Baptiste, « Jean aussi baptisait à Ainon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. » Il faut beaucoup d'eau pour immerger quelqu'un. Les conditions pour recevoir le baptême sont données par l'apôtre Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un nouveau-né est incapable de se repentir. Il ignore tout de la vie et du péché, et ce n'est pas à l'âge de 12 ans qu'il en connaît suffisamment sur la question. Si vous avez été baptisé à un âge plus avancé, saviez-vous que quiconque pêche transgresse la loi, et que le péché est la transgression de la loi? Connaissiez-vous la loi divine afin de bien l'observer et de ne plus vivre dans le péché? Se repentir, comme Pierre le conseille à la foule, c'est reconnaître devant Dieu que l'on a péché et c'est décider de vivre en conformité avec sa loi et sa volonté. Si votre baptême n'est pas conforme aux prescriptions de l'apôtre Pierre, votre baptême est sans aucune valeur aux yeux de Dieu et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si c'est le cas, votre Dieu n'est pas le vrai Dieu, puisque vous ne suivez pas ses instructions transmises par sa parole inspirée. Il est donc grand temps que vous le cherchiez. On nous dit que le Christ est venu abolir la loi. Et on nous cite un verset tiré de son contexte, dans lequel l'apôtre Paul a écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Considérez-vous dès lors qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi divine. Pourtant, selon le mot original, l'acte ne se rapporte pas à la loi, mais à une note manuscrite par laquelle on reconnaît devoir de l'argent. C'est une reconnaissance de dette. En mourant à notre place, le Christ a effacé les péchés qui nous condamnaient. Il a acquitté la dette à notre place. Il est mort à notre place. C'est ce que l'apôtre Pierre a déclaré. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Adoptez une manière de vivre conforme aux Écritures, pour que vos péchés soient effacés. Le roi David a écrit, après avoir compris ses fautes, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » David savait que la loi ne serait jamais abolie. Il la déclare éternelle, c'est ce qu'il écrit dans le psaume 119. Affirmer que le Christ a cloué la loi sur la croix, c'est s'opposer à ce qu'il a affirmé d'une manière très catégorique. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » Et il s'agit ici de la plus petite lettre de l'alphabet grec, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Remarquez que le Christ déclare « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. » Pourtant, combien de religions ont pris le contre-pied de ces affirmations et enseignent qu'il est bien venu abolir la loi. Elles ajoutent que Jésus, étant venu accomplir la loi, cela signifie qu'il l'a observée, pratiquée à notre place. Mais on a bien soin de ne pas révéler que le mot « accomplir » est traduit du grec « pliro », signifiant aussi « compléter, perfectionner ». C'est ce que le Christ a fait en ajoutant à la lettre de la loi, l'esprit de la loi comme il le révèle dans le reste de ce chapitre. Si vous croyez un enseignement qui contredit le Fils de Dieu, qui le fait passer pour un menteur, alors vous le rejetez et vous vous tournez vers un autre Dieu. Il est donc grand temps que vous vous mettiez à la recherche du Dieu vivant. Devant les miracles du Christ, la foule se posa la question « N'est-ce point là le fils de David ?» Le fils de David était le Messie annoncé. Il devait naître de la descendance de David. Les pharisiens, jaloux, lui demandèrent d'accomplir un miracle pour prouver qu'il était vraiment le fils de David, le Messie. Et Jésus répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puisque Jésus a reconnu qu'il y avait 12 heures au jour, il devait donc rester dans la tombe pendant 72 heures. Pourtant, si vous observez la tradition du vendredi saint et du dimanche des Pâques, vous rejetez le Messie, le Sauveur. N'est-ce pas là un blasphème ? Vous avez dès lors un autre Dieu. On nous fait croire que le Christ est ressuscité le dimanche et que pour cette raison nous devons observer le repos hebdomadaire au cours du premier jour de la semaine qui est devenu le jour du Seigneur en lieu et place du 7e jour fixé et sanctifié par Dieu. Quoi que vous en pensiez, ne pas observer le jour du repos fixé par Dieu, c'est vivre dans la transgression de la loi. C'est rejeter l'enseignement de Dieu. Si vous examinez les documents historiques, vous constaterez que dimanche est le jour du Seigneur Baal. Nulle part, vous ne trouverez dans la Bible la moindre allusion à la résurrection du Christ devant apporter le moindre changement quant au jour du sabbat, du repos. Le livre des Actes montre qu'après la mort du Messie et sa résurrection, les apôtres continuèrent à se réunir au cours du jour fixé par Dieu, et les épîtres qui nous incitent à observer les commandements n'y apportent pas le moindre changement, n'y amènent pas la plus petite modification. Et pour cause, David n'a-t-il pas écrit « Tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » La version du chanoine Crampon ajoute « Les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Tous ses commandements sont dignes de confiance, affermis pour tous les siècles, faits selon la droiture et la vérité. » L'apôtre Luc dans le livre des Actes et l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens nous expliquent aussi que, longtemps après la mort du Christ, les païens convertis observaient les fêtes de l'Éternel données à perpétuité, sans glisser vers les fêtes d'origine païenne que le monde chrétien traditionnel a adoptées depuis longtemps. Alors, vous qui m'écoutez ce matin, qui servez-vous? Qui est votre Dieu? Est-ce le Dieu vivant ou Baal et Astarté? Je vous rappelle ce que Élie a dit au peuple, si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. Le roi Salomon a donné un excellent conseil. Il a écrit, « L'homme prudent, c'est-à-dire l'homme sage, voit le mal, le péché, et se cache, il s'en préserve. Mais les simples, les imprudents qui ne réfléchissent pas, avancent et sont punis, ils en supportent les conséquences. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il est question ici d'une richesse et d'une gloire impérissable, de la vie éternelle. La soumission à Dieu requiert de l'humilité, ainsi qu'une vie en conformité avec sa volonté. Malheureusement, trop souvent on préfère choisir ses croyances dans un vaste supermarché religieux. Le prophète Jérémie devait transmettre au peuple de Dieu un avertissement qui garde toute sa valeur en ce 20e siècle. Réformez vos voies, votre façon de vivre, votre mode de vie, et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, à des formules trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous vous présentez devant moi. Je vous rejetterai loin de ma face. Ensuite, l'Éternel dit au prophète Jérémie, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances, des requêtes, des sollicitations auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Le peuple s'enfonça dans sa mauvaise voie. Il continua à s'adresser aux faux dieux et il fut puni. Il perdit la protection divine et il fut emmené en captivité. Cependant, l'Éternel avait déclaré, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardez autour de vous et vous constaterez que le monde a, lui aussi, perdu cette protection. Il vit dans les souffrances, le malheur, les guerres, les famines. Vous pouvez échapper à ces malédictions si vous revenez à Dieu, si vous examinez les Écritures afin de connaître ce que Dieu attend de vous, et si vous balayez de votre esprit toutes ces croyances qui s'opposent perfidement à lui. Recherchez donc sa volonté pour bien la pratiquer. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Vous pouvez échapper ainsi à ses malédictions. C'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine.